BFM Business et la Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
Allez, il est 9h58, on est de retour pour la seconde partie de l'émission. Vous êtes toujours en direct sur BFM Business. C'est les experts avec aujourd'hui Rokhaya Pondi, présidente de l'AMI Liaison, Jean-Marc Victory, éditorialiste aux Échos, et Anthony Morlet-Lavidali, économiste chez Rexecode. Nous allons parler, après le pouvoir d'achat, modèle social. Notre modèle social est-il hors de contrôle? Alors, le modèle social, c'est aussi un peu de pouvoir d'achat, c'est aussi du salaire différé hein, pour les Français, mais... On a énormément de prestations indexées sur l'inflation. Et quand l'inflation repart à la hausse, comme c'est le cas aujourd'hui, eh bien la facture coûte très, très cher aux finances publiques. La Commission européenne a déjà tiré la sonnette d'alarme cette semaine. Si on ne fait rien, c'est 5,7% de déficit. Je rappelle que l'objectif cette année, c'est 5,1%. On dérape à 5,7% l'année dernière. On apprend, selon nos informations BFM Business ce matin, que ce dérapage en France, il ne serait pas de 5,7% en réalité, mais de 6,2%, ce qui est quand même absolument colossal. Je me tourne vers vous, Anthony Morlet-Lavidali. Il y a moins de 2 mois, je veux dire fin mars, on était sur des bonnes nouvelles annoncées par le ministre des Comptes Publics, après les comptes de l'INSEE, qui nous disait « Ah, on n'est pas à 5,4, on n'est qu'à 5,1% en 2025 ». On se retrouve 2 mois après et on nous explique que ça va repartir à la hausse à 6,2%. Qu'est-ce qui se passe ?
Ça, c'est un peu la problématique du yo-yo. C'est-à-dire, un coup, le gouvernement nous dit les finances publiques sont tenues. On comprend pourquoi. Hein, il y a des besoins de crédibilité qu'il faut afficher vis-à-vis du marché.
Oui, puis tenues, pardon, mais en étant le dernier de la classe européenne.
En dernier de la classe. Mais on nous dit pas de risque de dérapage très fort des finances publiques. Et puis, dès qu'il va falloir faire passer soit des hausses d'impôts, soit des baisses de dépenses, on dit oula, attention, à politique inchangée. C'est-à-dire, si on ne fait rien, on va dans le mur. Donc ça, c'est aussi pour pouvoir justifier.
Ça veut dire qu'on fait de la politique avec ces chiffres ?
Bah, probablement, mais à un moment donné, la crédibilité, elle peut être attaquée. C'est-à-dire, si il y a 2 mois, même si on a un choc entre-temps et qui impacte la croissance, on va en parler, mais pas non plus dans des proportions. Enfin, on n'est pas en train de sombrer dans une récession immédiate.
On va y venir.
Les prévisions de croissance sont revues, mais pas non plus dans des proportions qui sont gigantesques. On peut pas perdre un point de PIB sur le déficit comme ça en un claquement de doigts. Donc là, c'est un peu une problématique, je trouve, de communication du gouvernement. Et plus fondamentalement, ça, c'est vrai que c'est un sujet en France, c'est que ce qu'on appelle la politique inchangée, c'est-à-dire si on ne fait pas de réforme, le déficit tend à se creuser. Et ça, c'est un problème parce que on a indexé tout un tas de prestations, on parle du salaire minimum, mais c'est vrai de la plupart des prestations sociales, et on fait comme si c'était indu. Il y a beaucoup de pays dans lesquels ce n'est pas le cas. Et ça met d'ailleurs le politique dans une situation très difficile, puisque le politique ne passe son temps à devoir faire des économies, puisque comme on indexe tout, c'est lui qui tout le temps doit se présenter en disant non, il faut mettre un coup de rabot. Ça serait plus simple si, par définition, ça n'était pas indexé, et il allait voir les Français en disant une année sur deux, ou peut-être tous les ans, mais je réindexe, parce qu'au moins il annoncerait une bonne nouvelle. Là, le politique, quel qu'il soit, passe son temps à annoncer des mauvaises nouvelles, parce qu'on a créé un système qui est une pente glissante infinie. Et ça, c'est très problématique. Il faudrait réformer en profondeur le système, parce que c'est pas tenable dans la durée.
On a l'impression de voir Cronos dévorer ses enfants. Jean-Marc Vittori, une sorte de monstre qui n'arrêterait pas de gonfler sous la pompe de l'inflation. Et effectivement, en face, c'est des coups de rabot budgétaires sur les missions de l'État. Là, on cherche encore 6 milliards d'économies pour compenser le coût de la guerre, mais aussi des dépenses sociales qui dérapent. Et du coup, c'est l'innovation, c'est l'école, c'est même l'armée.
Et la justice, alors même que.
Et la justice, alors qu'on est en pleine polémique actuellement. Je veux dire, combien de temps on peut continuer à fonctionner dans un système comme ça, qui semble hors de contrôle aujourd'hui, hein ?
On se raconte des histoires de manière tout à fait impressionnante. Déjà, la première chose, moi, qui me frappe, c'est que maintenant, on a l'impression que la cible, c'est un déficit de 5% du PIB. Je rappelle qu'il y a 10 ans, on considérait que c'était 3%, et on disait, on va passer on va être à 2,9, ça va être bien. Et là, maintenant, la cible implicite qu'il y a dans le débat public, c'est 5%.
Et on rappelle que 3%, c'est uniquement pour stabiliser la dette.
Oui. Et donc ça montre un sérieux dérapage. Ça ne poserait pas de problème si on avait une croissance qui était sensiblement plus forte, mais c'est pas vers là qu'on s'oriente. Première chose. Deuxième chose, c'est la pente que décrit Anthony, qui est tout à fait majeure. Enfin, on peut résumer ça de manière simple. Chaque année, les recettes augmentent mécaniquement de de 20 milliards. Hein. Bon, si on corrige.
Oui, c'est un point de PIB. Non, mais on est sur un point de PIB de hausse de recettes,
milliards de hausse de dépenses. Donc chaque année, on est obligé de trouver 20 milliards et qu'on trouve un peu à l'arrache à chaque fois, en rabotant. Et on a tellement raboté qu'il y a des endroits où on est à l'os et où ça fait très très mal maintenant. On a une machine qui est impilotable. Je rappelle que l'une des réformes, l'un des buts de la réforme des retraites, qui était la réforme des retraites à points, qui était dans le programme d'Emmanuel Macron, qui avait commencé à être mise en chantier, et puis le chantier avait été cassé par l'épidémie de Covid, et puis ensuite on est passé à du rééquilibrage d'âge
paramétrique.
Le but de ce passage à une retraite à points, c'était d'avoir un système de retraite qu'on pouvait piloter. C'est-à-dire, en fonction de la conjoncture, on pouvait ajuster l'ensemble
des
dispositifs. C'est comme ça que ça fonctionne dans les pays nordiques. Quand l'économie va moins bien, les retraites vont moins bien et tout le monde trouve ça normal. En France, quand l'économie va moins bien, il faut que les retraites continuent de progresser et donc, évidemment, on creuse le trou. Donc, on a un système en France qui est impilotable et, évidemment, une dynamique politique qui ne favorise pas la reprise en main des affaires.
Un système impilotable, nous dit Jean-Marc Vittori. Pardon, mais Rokhaya Pondy, il enfonce droit dans le mur, donc.
Moi, je suis d'accord avec Sisi. C'est que, au-delà d'être impilotable, il est sclérosé. Ça fait 2 ans qu'il ne se passe absolument rien sur les sujets majeurs qui nécessitent une réforme. On est sur des modèles parfois obsolètes, parfois complètement inadaptés. C'est une question de fondation. C'est-à-dire que vous construisez une maison, vous décidez qu'elle aura 1 ou 2 étages. Vos fondations, vous les faites en fonction de 1 ou 2 étages. Vous les faites pas pour un immeuble. Donc on a mis des surcouches. On se retrouve aujourd'hui avec un millefeuille qui ne fonctionne plus. Je suis d'accord, il faut des réformes en profondeur. Simplement, on a un agenda politique et moins d'un an des élections, on sait qu'il ne se passera rien.
Et il ne se passe plus rien depuis la dissolution, donc si je vous entends, c'est ça. Hein.
Bien sûr, oui.
Mais voilà, c'est des fondations qui datent de 1945-48, avec une démographie qui n'avait rien à voir avec celle qu'on a aujourd'hui, et donc il va falloir revoir, donc tout casser et tout refonder. Quoi.
Aujourd'hui, on a le vieillissement de la population, on a le taux de natalité en baisse, on a des problèmes de partout, Donc, effectivement, il faut casser le modèle, le réinventer à l'ère de tout ce qui se passe en France et ailleurs dans le monde. L'avènement des nouvelles technologies, l'obsolescence des compétences. On parlait tout à l'heure de performance, mais vous savez, la compétence qu'acquiert un salarié, qui a 30 ans, elle était acquise pour une durée de 30 ans.
Eh oui.
Maintenant, c'est 2 ans. L'obsolescence, c'est programmé, c'est 2 ans. Donc la gestion des talents, qui est quand même le capital qui crée de la valeur et qui crée de la richesse, il est en danger.
Anthony, pour revenir sur notre système qui est impilotable, ce qui est amusant, c'est que ce qu'on appelle le politique inchangée, c'est-à-dire la norme, c'est d'augmenter les dépenses de 40 milliards l'an. Comme si l'indexation augmentait les dépenses publiques.
Ce qu'on appelle le tendanciel, c'est l'augmentation automatique. Hein.
C'est terrible de faire ça.
Ce pilotage automatique est dingue.
Quoi qu'il arrive, augmenter les dépenses publiques est normal. C'est-à-dire que c'est un état de l'art. Mais non, on devrait sacraliser chaque euro dépensé supplémentaire et ensuite en discuter. Mais forcément, et ça met le politique un petit peu dans le corner, parce que lui doit annoncer en permanence des mauvaises nouvelles en disant, il faut que je tienne la dépense ici. Parce qu'on a rendu normal l'augmentation permanente des dépenses. Je pense que là-dessus, il faut absolument revenir sur ces indexations, parce que sinon, peu importe le politique au fond, il ne peut pas en permanence annoncer des mauvaises nouvelles, parce que c'est intenable dans la durée, vous devenez monstrueusement impopulaire, et c'est quand même plus facile de désindexer et de dire chaque année je réindexe, là vous êtes nettement plus populaire, que de dire, ah mais non, là on va serrer, là aussi, moi je pense que même politiquement, c'est intenable cette affaire.
Oui.
Et si on revient sur l'exemple des retraites, jusqu'en 1993, les retraites étaient indexées sur le salaire.
Le pouvoir d'achat, sur l'augmentation du pouvoir d'achat.
Et donc on disait, il y a un moment on s'est rendu compte que c'était plus possible, et donc on a dit on va indexer sur les prix, ce qui paraissait beaucoup plus raisonnable.
Oui.
Mais ce qu'on a vu dans les années 2020, c'est que quand on indexe sur les prix et pas sur les salaires, on peut avoir des retraites qui augmentent davantage que les salaires, parce que les salaires
ne suffisent plus les prix. On est sur la deuxième crise inflationniste.
En 1993, on n'imaginait pas que les salaires puissent ne pas suivre les prix à un moment donné. Dans les années 2020, les salaires n'ont pas suivi les prix, donc les retraites ont augmenté plus que les salaires, ce qui, évidemment, a priori, est totalement aberrant. Et donc, il faudrait un autre mécanisme d'indexation des retraites. Ça fait partie du paquet de réformes qu'évoque Anthony.
C'est vrai que l'ironie du sort, c'est qu'on a indexé les retraites sur les salaires à l'époque où il y avait de la productivité, et on s'est mis à indexer sur les prix quand il n'y a plus de productivité. Donc finalement, c'est doublement perdant pour les finances publiques. C'est-à-dire,
on est complètement à contre.
C'est terrible. Quoi. C'est vraiment. Mais ça partait d'une bonne intention, mais malheureusement, on n'avait pas vu que la productivité pouvait parfois décevoir autant et aller moins vite que les prix.
Mais ça veut dire que ça va être le débat du prochain budget, là, si je vous entends tous ici autour de la table. On vient de geler, quand même. On vient de désindexer un système. Alors, c'est pas un système social, mais on vient de désindexer les allègements de charges sur les bas salaires, justement. Ce qui a fait râler tout le patronat, 2 milliards d'euros d'économies.
Attendez, avec les allègements de charges. Charge, ça veut dire augmenter des
impôts. Ça veut dire augmenter les impôts. Alors, c'est ce qui est
du travail.
Voilà. Est-ce qu'on n'est pas là, en réalité, en train de préparer le terrain à une désindexation du coût des minima sociaux pour dire, regardez, on l'a fait pour les entreprises avant l'été, à l'automne, durant la discussion budgétaire, on va devoir serrer la vis parce que ça part complètement dans le décor. Donc, est-ce qu'on peut s'attendre?
Ça serait bien, mais on a quand même
des indexations. Des dépenses sociales, Anthony.
On pourrait l'espérer, mais on a un goût pour l'impôt qui est infini. Donc la réalité, c'est que c'est toujours plus facile d'augmenter le coût du travail et de dire que ça n'aura pas tant d'effet que ça, parce que ça, à chaque fois, c'est que quelques milliards. Mais on est toujours sur cette pente glissante de plus de prélèvements et malheureusement une dépense qu'on a beaucoup de difficultés à contraindre, en tout cas dans son taux de croissance. Donc je l'espère, mais j'en suis pas convaincu.
Oui, il va ressembler ce budget, Jean-Marc.
Le débat du budget, ça devrait être comment est-ce qu'on reprend en main des comptes publics qui dérivent naturellement, évidemment. Et le débat, ça va être quel est celui qui va émerger comme candidat pour l'élection présidentielle.
Bah oui.
Et donc, je pense que ça va être très, très compliqué. Je ne suis pas sûr qu'on terminera l'année avec un budget. Je pense qu'on risque assez fortement d'avoir une loi spéciale.
Jusqu'à la présidentielle
Qu'est-ce que vous voyez comme autre scénario? Vous imaginez des députés se mettre d'accord sur un projet de budget en janvier 2027?
Moi, depuis le début, je plaide pour des ordonnances. On passe en force. Le Parlement doit sauter à quelques mois des élections présidentielles. Finalement, c'est peut-être le moment de faire des économies massives. Comment vous anticipez ce budget à venir, Rocaille?
Non, mais on voit bien aujourd'hui que bricoler ne suffit plus. Donc, il faut aller beaucoup plus loin. On parlait de serrer la vis. C'est plus que serrer la vis. Là, faut tout démonter et refaire. À un an des élections, moi je n'y crois absolument pas qu'on aura un budget qui soit tangible, qui soit à la hauteur de l'attendu. Le modèle ne fonctionne plus. On n'a plus les moyens de se l'offrir. Pendant longtemps, il a été envié, ce modèle français. Envié, on en parlait partout. Aujourd'hui, il est décrié et par les Français les premiers. Ouais. Sauf que personne n'est prêt à y renoncer.
Oui.
Personne ne veut. Alors, on
les
veut
efforts,
la même
c'est souvent
chose.
Chez le voisin.
On veut la même chose à moindre coût. On veut toujours le même niveau de prestation, d'accompagnement, j'allais dire, dans des moments clés de vie.
Oui.
Puisque finalement, la protection sociale, encore une fois, là pour prévenir des risques de la vie, mais aussi nous accompagner dans les moments clés. On en veut plus, mais à moindre coût. Ça ne peut pas fonctionner.
Bon, est-ce qu'il n'a pas de prix, n'a pas de valeur, comme je le dis souvent aussi. Mais là, c'est toute une culture qu'il va falloir changer. Bon, on espère que les experts vous aident en tout cas à y voir un tout petit peu plus clair dans ce qui ressemble quand même à un marasme. Il y a quand même une bonne nouvelle dans tout ça, Anthony. Et vous êtes un peu le lanceur d'alerte de bonnes nouvelles cette semaine. Si. Ne faites pas les faux modestes. C'est vous qui avez trouvé dans la révision des comptes de l'INSEE publiée il y a une semaine une révision de la croissance en 2022-2023. Mais alors, spectaculaire, dites-nous.
Oui, alors c'est vrai que c'est toujours intéressant de regarder au mois de mai quand l'INSEE publie non pas seulement les comptes trimestriels, mais aussi les comptes annuels pour voir, regarder dans le rétroviseur ce qui s'est passé.
Oui.
Et l'INSEE révise jusqu'à année N-2. Donc ça permet de retrouver un peu de profondeur historique. Déjà, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que sur une période des 25 dernières années, depuis le début des années 2000, l'INSEE a une tendance à réviser toujours un petit peu à la hausse la croissance une fois qu'elle intègre les données microéconomiques, c'est-à-dire notamment les liasses fiscales d'entreprise. Et là, ce qu'on a eu sur donc, la croissance 2022 a été révisée à la hausse de 0,2 points, mais la croissance 2023, c'est assez spectaculaire, parce que corrigé des jours ouvrés, on est passé en première estimation de 0,9 à 1,9%.
C'est dingue.
Et sur 2024, c'est complètement dingue, et de 1,1 à 1,4% sur 2024. Alors d'où ça vient? Essentiellement d'un secteur, Parce que faudrait pas non plus, on a entendu virevolter quelques critiques sur l'INSEE, je trouve que l'Institut National de Statistique...
Quand même, on a parmi les meilleurs statisticiens au monde,
exactement.
Hein, c'est une maison respectée.
Et c'était sincèrement compliqué, parce que quand on ouvre un peu le capot, c'est un peu technique, mais je vais essayer de simplifier, c'est d'une part, ça vient d'un secteur et pas de tous les secteurs, c'est surtout l'industrie qui a été, dont la valeur ajoutée
c'est
a
ça
été
qui est intéressant.
Revenue massivement à la hausse. Et pourquoi ? Pour deux effets. D'une part, on était dans une période de choc inflationniste, et le partage volume-prix, quand on est en période d'augmentation forte des prix, c'est pas si simple que ça. Donc ça, le premier point, c'est de dire il y avait des difficultés à traiter les volumes et les prix. Finalement, il y a plus de volume et un peu moins de prix.
C'est aussi la crise inflationniste. Donc ce que vous nous dites là, Anthony, c'est exactement. Que c'est la crise inflationniste qui a brouillé toutes les pistes. Tout comme à Bercy, c'est à ce moment-là qu'on a eu des trous dans les recettes de exactement. 40 et 20 milliards.
Hein. Tout à fait. Et l'autre point qui a été peu commenté, mais qui explique aussi pourquoi il y a plus de valeur ajoutée, c'est que les entreprises, notamment industrielles, ont fait d'énormes économies de process. À la fois, on consommait moins d'énergie pour un même niveau de valeur ajoutée et moins d'intrants parce que les intrants coûtaient plus cher. Donc, en gros, pour 1 euro de production, on a augmenté le taux de valeur ajoutée de 8% sur la période. Et ça, l'INSEE peut difficilement l'estimer en temps réel parce que c'est basé sur ce qu'on appelle les consommations intermédiaires, oui. qui sont des coefficients techniques qu'elle ne peut réviser que dans les comptes annuels. Et donc, elle n'avait pas beaucoup de moyens de le voir en avance. Donc, il y a à la fois eu ces gains d'efficacité du côté de l'industrie, il y a aussi eu des révisions dans le partage volume-prix. Et quand on additionne tout ça, qui était honnêtement des choses difficiles à voir, effectivement, on a plutôt des bonnes nouvelles. Et les secteurs qui tirent, c'est notamment les autres matériaux de transport avec l'aéronautique, le spatial, le ferroviaire, le naval. Ça, c'est quand même des filières en France qui, objectivement, se portent bien. Et ça nous dit qu'on a une industrie qui est encore plus hétérogène qu'on le pensait, avec des segments très dynamiques et des secteurs qui, pour le coup, énergo-intensifs, eux, ne vont pas bien.
On a encore la production industrielle du mois d'avril qui est tombée ce matin et on voit la courbe des industries de transport qui, franchement, explose tous les autres. C'est le signe de quelque chose. Une production industrielle qui, au total, c'est encore plus 0,1 en avril ce matin, Jean-Marc. C'est plutôt une bonne nouvelle. On a l'impression que, finalement, l'économie française... On n'arrête pas de le dire, y compris sur ce plateau, y a quand même beaucoup de choses qui vont mal, etc. Elle a une résilience exceptionnelle, je trouve.
C'est pas l'économie française, c'est les entreprises. C'est les entreprises qui ont énormément appris depuis 10 ans. Hein. Si vous regardez...
C'est quoi, c'est face à la crise, à cette permacrise dont on parle.
C'est cet enchaînement incroyable de crises qui les a forcés à acquérir une souplesse et une agilité qui étaient, il y a 10 ans, des mots que lançaient les consultants et qui sont devenus aujourd'hui des réalités très concrètes dans le fonctionnement des entreprises. Donc Brexit, premier mandat de Trump, Covid, désorganisation radicale des chaînes de valeur, vague d'inflation, invasion de l'Ukraine, blocage du détroit d'Hormuz. Et donc, face à ça, les entreprises, maintenant... Beaucoup d'entreprises, en particulier les grandes entreprises, ont acquis des réflexes en disant il se passe ça, tout de suite il faut faire, on ajuste les commandes, on voit les clients, on parle aux salariés, on réorganise les voies de circulation. Enfin, c'est tout à fait, honnêtement, c'est tout à fait.
C'est devenu un mot valise, mais elles sont plus agiles.
C'est tout à fait impressionnant. Oui, elles sont plus agiles et c'est une excellente nouvelle. Bon. Pour revenir sur les chiffres,
oui.
J'ai vu des commentaires acerbes sur l'INSEE qui viennent de gens qui n'ont pas la moindre idée de ce qu'est la complexité de calculer des comptes nationaux. C'est une opération extrêmement complexe. Ça fait près d'un siècle qu'on perfectionne les dispositifs, mais c'est par nature quelque chose de très complexe puisqu'on additionne des choux, des carottes, des serviettes, des torchons pour essayer de faire un chiffre à peu près cohérent. Le deuxième point, c'est que la correction la plus importante, elle a été faite en fait l'an dernier. Sur 2023, puisqu'on avait le chiffre de 2023 avait été relevé de 0,5 points, et là il était relevé encore de 0,2, mais la grosse correction c'était l'an dernier, et c'est un processus qui se fait, c'est impossible de faire plus vite vu la façon dont les données sont ramassées. On peut d'ailleurs se poser des questions parce que les données financières trimestrielles des entreprises sortent un mois et demi après la fin du trimestre, et les entreprises ont du mal à fournir les liasses fiscales. Enfin bon, je pense qu'il y a un petit problème tout de même de circuit qu'on pourrait sans doute arranger. Mais ça dépend pas de l'INSEE. Et le troisième point sur les chiffres, c'est que ça rend encore plus catastrophique la situation des finances publiques. Hein. Parce que je rappelle que on a commencé à calculer le PIB pourquoi il y a 3 siècles. Hein, on a commencé à calculer pour voir quelle était la masse de revenus sur lequel l'État pouvait prélever l'argent. Hein. L'origine du PIB, c'est ça. Et on a perfectionné le dispositif quand, pendant la Seconde Guerre mondiale, parce que les Américains, l'État, gouvernement américain voulait savoir combien ils pouvaient pomper pour financer l'effort de guerre. Donc c'est absolument crucial là-dessus. Et donc, la production a été plus forte que prévu, et donc les finances publiques auraient dû être moins pires que ce qu'elles ont été. Donc ça renforce encore, même s'il y a des histoires de partage prévolu, mais ça renforce encore le sentiment d'incurie que dégage la vision des finances publiques.
Mais voire même un hiatus, je viens vers vous, Rocaille Apondi, mais Anthony, d'abord, il y a quand même un hiatus. Comment on a pu avoir une croissance bien meilleure que prévu et des trous de 20 à 40 milliards dans les recettes en 2023 et 2024, ça paraît quand même absolument spectaculaire.
Il y a en partie ce qu'Anthony expliquait sur le partage prix-volume.
La valeur n'a pas tellement été revue à la hausse.
L'État, il perçoit ses recettes sur la valeur, pas sur le volume, pas sur les prix.
Donc, on rappelle que valeur, c'est y compris l'inflation, le volume, c'est on déflate les prix de la hausse des prix.
Ça renvoie à un problème de fond de la France, c'est que c'est jamais le bon moment de faire des économies ou de faire de la consolidation budgétaire. Donc on se dit toujours que la croissance déjà sera plus forte demain, ce qui est faux. Et en plus, c'est vrai qu'on s'aperçoit que c'est des années plutôt florissantes, mais on le voyait sur le marché du travail. Ça, c'était quand même assez spectaculaire. On se posait la question de pourquoi autant de recrutements dans l'économie française. Parce qu'il y avait plus d'activités qu'on le pensait. C'est une bonne leçon à retenir. C'est rare que les entreprises embauchent quand il n'y a pas d'activité. Donc ça, faut souvent.
Et c'est
quand
ce
même...
qui explique le maintien de l'emploi, peut-être, effectivement.
Exactement. Et le dernier point, je pense qu'il faut souligner dans les comptes, c'est la révision massive de l'investissement des entreprises. 5 points en niveau. Et ça, ça vaut le coup de réviser aussi le jugement qu'on porte sur la politique de l'offre. On a longtemps dit que quand même, on se posait des questions sur les bénéfices que ça pouvait avoir. Là, quand vous regardez désormais la dynamique de l'investissement des entreprises en France, c'est la plus sur les 10 dernières années, la hausse la plus forte de tous les grands pays de la zone euro, grosso modo.
Ce qui est plutôt bon signe pour l'avenir. Alors, c'est beaucoup de services informatiques, c'est bien.
Et c'est en train de basculer sur les dernières années, avec notamment ce qu'on a vu fleurir dans les différents PLF. Donc, il faut peut-être aussi réviser le jugement qu'on portait sur la politique de l'offre en se disant, alors, il faut la financer, cette politique de l'offre, parce qu'il ne s'agit pas de la financer à crédit aujourd'hui, mais que ça peut avoir quand même des effets très positifs, notamment sur les entreprises et sur la dynamique d'investissement. Et ce qu'on a vu, c'est qu'effectivement, le rebond post-Covid, en fait, en termes de dynamique d'investissement, a été absolument massif. Et les industriels ont beaucoup investi. Alors, il y avait eu des dispositifs qui ont été mis en place pour eux, notamment le suramortissement pour les TPE-PME, pour se digitaliser. Mais ça, c'est des choses qui marchent. Donc, on devrait quand même reprendre un petit peu ces mesures en se disant qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir durablement l'investissement en France, parce que c'est effectivement à la fin la croissance de long terme.
Je voulais qu'on tout dise aussi un mot de la productivité. J'ai vu un long tweet d'Éric Heyer hier invité.
Intéressant.
Récurrent des experts, Éric Heyer, économiste à l'OFCE, invité régulier ici, qui disait que ça redessine aussi la carte de la productivité française.
Oui, ça corrige. Forcément, le nombre d'emplois n'étant pas révisé, si vous avez plus de valeur ajoutée, comme la productivité, c'est le rapport entre...
Parce qu'on disait qu'elle reculait, finalement...
Finalement, on est toujours sous la tendance pré-Covid, mais c'est sûr qu'on n'est pas dans l'espèce d'hécatombe que l'on imaginait. Faut avoir en tête que maintenant, on est désormais au niveau de la moyenne de la zone euro. Ce qu'il faut pas oublier, par contre, en creux, c'est que tous nos problèmes ne sont pas résolus et l'Europe reste en décrochage massif sur la productivité vis-à-vis des États-Unis. Donc, oui, c'est une bonne nouvelle en termes de révision, mais cette dynamique de productivité permet absolument pas de rendre soutenable nos finances publiques, par exemple. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle qu'il faut prendre à bord, mais c'est pas l'Eldorado non plus.
Vu le contexte actuel, Rocaille Apondi, on a envie d'investir quand on est chez l'ami?
Alors, investir, tout dépend où et sur quoi. Moi, ce que j'ai envie de dire surtout, c'est que les entreprises, on les côtoie beaucoup. Chez l'ami, ce sont une partie de nos clients qu'on adresse, tous secteurs confondus. Et cette notion sectorielle, elle est vachement importante parce qu'effectivement, les écarts existent entre secteurs d'activité.
Bien sûr.
On citait tout à l'heure les secteurs qui se portent bien, le secteur du luxe, de l'aéronautique, du ferroviaire, etc. Et puis, il y en a d'autres qui souffrent un peu plus parce que tout autant que monsieur, madame, tout le monde, ils subissent aussi le coût de l'énergie qui augmente. Donc, les boîtes de transport, c'est compliqué pour elles. Ça l'est. Et puis, la deuxième chose, c'est que, bonne nouvelle, oui, pour autant, ça ne change rien au quotidien des Français et au quotidien des PME. On a toujours ce sentiment de déclassement qui subsiste, même si l'économie montre des signaux de résistance, de résilience. Bonne nouvelle à nuancer de mon point
de vue. C'est ça, il faut un peu rentrer dans le détail, effectivement, parce que ce dont on parle là quand même beaucoup, c'est d'un risque de récession technique maintenant, parce que Il y avait les bonnes nouvelles pour 2023-2024, mais dans les révisions de l'INSEE, il y avait aussi le premier trimestre cette année. On pensait avoir une croissance zéro, et finalement, c'est une croissance de moins 0,1, Anthony.
Ouais, là, on rentre dans le dur. C'est ça le sujet.
Pire est à venir.
C'est toujours difficile, oui, de se dire finalement, on allait mieux hier, et là, on est en train de basculer. D'ailleurs, le marché du travail le dit bien. On se disait, comment se fait-il que les entreprises embauchent autant en 2023-24? Là, c'est juste plus le cas. On est en train de détruire de l'emploi en net, notamment dans le secteur privé. Le taux de chômage remonte. Effectivement, on sent bien que le reste de l'année va être compliqué et ça va probablement mordre aussi sur 2027. Donc là, on est parti sur au moins deux années où la croissance elle risque d'être assez faible. D'une part, parce que l'industrie va se mettre à souffrir, mais on voit aussi que dans les services, notamment ceux qui adressent les consommateurs, c'est en train de déguster. Donc c'est sûr que là, l'économie française est en train de basculer dans une zone où ça va être difficile, notamment de consolider les finances publiques. Avec peu de croissance, bon courage quand même.
Bon, ce sont les hausses d'impôts hein, pour corriger les déficits.
Ouais,
comment vous voyez l'avenir, Charles?
La France est pas la seule, et elle n'est pas la seule aussi avec des problèmes de chiffres. Je voudrais vous rappeler ce qui se passe en Irlande. Hein. Nos amis irlandais, ils avaient sorti un PIB au premier trimestre 2026 avec une baisse de 2%. Ils ont révisé hier. Finalement, ce n'est pas une baisse de 2%, c'est une baisse de 12%. Voilà, donc
j'avais raté ça.
Ceux qui critiquent l'INSEE devraient aller voir ce qui se passe dans l'office statistique.
Hey, quand je me compare, je me console.
Alors c'est évidemment que c'est très compliqué parce qu'ils ont une partie importante des revenus qui vient des multinationales.
Oui, c'est ça, hein, la tech notamment.
Donc c'est très très compliqué à suivre, mais la baisse du PIB irlandais au premier trimestre risque de faire tomber la zone euro en récession, de faire baisser le PIB de la zone euro dès le premier trimestre.
Oui, mais c'est ça. C'est l'histoire notamment des multinationales et des GAFAM avec leurs histoires de transfert de revenus. Il va peut-être falloir à un moment donné sortir l'Irlande des statistiques zone euro parce que
ça brouille complètement
La lecture, et ceux qui n'ont pas le petit réflexe de corriger, malheureusement, vont se laisser à dire que la zone euro est en récession dès le premier trimestre. C'est sûr qu'à moins 12, même si c'est un petit pays, la contribution fait largement chuter la moyenne. Et on aura probablement un rebond au T2 qu'il ne faudra pas surestimer non plus. Donc ça, corrigeons quand même des fois les statistiques, des petits biais qui peuvent être introduits.
Les auditeurs des experts seront prévenus.
Voilà, ceci dit, évidemment qu'on n'est pas en pleine accélération, ça c'est sûr. On est plutôt en ralentissement. Et même si on sait maintenant qu'on était plutôt au-dessus, un peu sensiblement au-dessus de 1%, quand on est dans ces zones-là de croissance et que ça ralentit, ça devient très vite très compliqué parce qu'on n'est pas très loin de la stagnation.
Oui, ça donne un contexte quand même très particulier pour la campagne présidentielle qui s'ouvre.
Et encore une fois, quand on n'est pas très loin de la stagnation, ça veut dire qu'il y a des revenus de millions de femmes et d'hommes qui diminuent. Et évidemment, en temps de campagne, ça ne peut que crisper les relations.
Oui, et puis tendre vers les extrêmes, évidemment.
Stagnation n'étant pas récession. Je tiens à le dire parce que je trouve que là, le mot récession...
C'est bien de le rappeler aussi.
Non, mais cette stagflation, parce qu'on a aussi l'inflation qui arrive. Donc
je préfère, parce qu'on adore dire que quand il y a un moins 0,1, non, c'est zéro. Quoi. Enfin bon, on peut s'amuser à dire, mais c'est quand même l'épaisseur du trait. Donc pour l'instant, c'est vraiment la stagnation de l'activité. On n'est pas encore dans ce qu'on pourrait appeler le négatif, où là, on a un recul massif. Parce qu'un recul massif du PIB, là, pour le coup, c'est une forte hausse du taux de chômage, c'est beaucoup de destruction d'emplois. On n'en est pas là.
C'est-à-dire qu'on a une économie qui stagne, quoi.
Voilà. Ah, c'est pas génial, hein. Mais par contre, ça pourrait être bien pire. C'est aussi ça qu'on peut, on peut se dire.
C'est ce qui se passe au niveau européen, non?
Oui.
On voit aussi en Allemagne, ce qu'on voit finalement, c'est l'ensemble du vieux continent.
Évidemment, le choc même sur l'ensemble du vieux continent, c'est différent aux États-Unis. On a une réaction encore différente en Chine, hein, mais en Chine, on voit qu'il y a une baisse massive de la consommation de pétrole. Hein, je crois 4 millions de barils par jour, c'est absolument colossal.
Ah bah, le signal prix est formidable. On vend énormément de voitures électriques et on consomme beaucoup moins d'énergie carbonée.
Dans l'ajustement, on a même une production qui morfle. Hein, donc ça va être compliqué dans les semaines et les mois à venir, c'est sûr.
Bon, quelques secteurs à surveiller, comme le disait Rokhaya Pondy. Que je remercie, présidente de l'AMI Édition, d'avoir participé à cette émission passionnante, ainsi que Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos, et Anthony Morlet-Lavidali, économiste chez Rexecode. Une émission qui est disponible en podcast et replay, vous le savez, sur l'application BFM Business, sur notre site et sur toutes les plateformes de diffusion. N'hésitez pas à la consommer et à la distribuer tout de suite. C'est Sandra Gandoin pour BFM Entreprise spéciale transmission. Quant à nous, on se retrouve lundi, même heure, même endroit, en direct sur BFM Business à 9h30. Très bonne journée à tous, très bon week-end, à lundi.
Les experts, débats et controverses sur BFM Business.